J'aimerais que nous lisions un texte dans Matthieu 12. À partir du verset 38. C'est la suite de cette histoire. Lorsque Jésus est avec ses disciples, n'est-ce pas, il passe dans les champs, les disciples prennent des gerbes pour se nourrir le jour du sabbat. Et donc, ils se prennent une remarque de la part des religieux. Et à partir du verset 38, donc. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, chercher du repos et il n'en trouve point. Alors il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Le besoin de miracles, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, de la même façon que le besoin du spirituel, le besoin de l'idolâtrie, le besoin d'adorer un Dieu, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Il n'y a quasiment pas de... Enfin, je crois qu'il n'y a pas dans le monde de tribus, de clans, de pays, de nations... Sans Dieu, ça n'existe pas. L'athéisme, c'est une notion moderne d'une autre forme de spiritualité qui est l'adoration de la nature humaine, de la capacité humaine. Mais le besoin de spiritualité, le besoin d'avoir un Dieu, le besoin d'avoir quelque chose qui nous aide à sortir de notre humanité est absolument nécessaire. L'homme a besoin de ça. Et donc, si on veut apporter l'Évangile au monde, eh bien, il faut connaître les besoins du monde, savoir ce dont ils ont besoin. Vous me direz, mais ils ont besoin de Dieu, oui, c'est sûr. Ils ont besoin de Dieu. Mais le principal problème de l'homme, c'est la peur. C'est la peur du lendemain. Ne pas savoir ce qui va se passer. Et il y a toutes sortes, n'est-ce pas, de maladies qui sont attachées à ça. L'angoisse, la dépression, il y a plein de choses. La peur de ne pas y arriver. Et donc, dans les cultures, les dieux sont vénérés parce que, quelque part, ils rassurent. N'est-ce pas ? On leur fait des offrandes et on attend quelque chose en échange de leur part. Ça nous rassure. Il y a des dieux qui sont même présents dans les nations. Si vous prenez l'Inde, par exemple, l'hindouisme est quelque chose qui est ancré dans la culture indienne. Vous ne pouvez pas extirper ça juste comme ça. C'est pour ça que les missionnaires, lorsqu'ils vont là-bas, on les empêche de travailler, parce qu'on les accuse de vouloir prendre une place qui n'est pas la leur. Ici, ce n'est pas la place du christianisme. Ici, c'est la place de l'hindouisme. Si vous voulez être chrétien, vous retournez dans vos pays. N'est-ce pas ? Ce sont en Amérique... En France, dans ces pays-là, vous pouvez adorer Dieu, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, c'est l'hindouisme. Et donc, il y a un militantisme religieux qui est lié des fois au pays. Et puis il y a aussi l'islam. L'islam qui est une autre forme de foi, n'est-ce pas, qui n'est pas basée sur des idoles. Bien au contraire, l'islam ne conçoit pas l'idolâtrie. L'islam, c'est l'adoration de Allah. Et la famille des musulmans est extrêmement importante. N'est-ce pas ? Allah, la famille, la umma, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On peut rentrer dans cette famille, on est accueilli à bras ouverts, mais on ne peut pas en sortir. C'est une trahison. C'est une traîtrise. D'en sortir, eh bien, ça fait de vous un mécréant. Mais derrière toutes ces façons d'adorer, il y a ce besoin, n'est-ce pas ? Ce besoin de spiritualité, d'adorer des idoles spirituelles, d'adorer des idoles faites de bois ou de pierre. Je me rappelle, lorsque j'étais au Myanmar, il y avait là des centaines, des milliers d'endroits où les gens pouvaient s'arrêter, faire des offrandes et adorer. C'était partout, partout, partout et en permanence. Et les gens le font et avec beaucoup de conviction. Parce que ça les rassure de savoir qu'il y a des dieux qui sont, n'est-ce pas, ce sont ces dieux du quotidien. C'était d'ailleurs le problème d'Israël, n'est-ce pas, d'importer des endroits de captivité dans lesquels ils étaient, ces dieux communs, ces dieux du quotidien, c'était des petites idoles qu'ils emmenaient avec eux et qui faisaient partie de leur vie quotidienne. Il fallait que les dieux soient propices et il fallait être en mesure de les remercier lorsque on faisait un gain, lorsque les récoltes étaient bonnes, n'est-ce pas ? Il ne fallait pas oublier de les remercier pour que la récolte suivante soit aussi bonne. Et donc, toutes ces pratiques se font depuis très très longtemps. Et on sait qu'Israël, n'est-ce pas, devait être la nation qui montrerait que le Dieu d'Israël était un véritable Dieu. Un Dieu qui parle, un Dieu qui s'adresse à son peuple, contrairement aux autres dieux qui sont des dieux faits de bois, faits de pierre. Et donc la foi de ces gens, la foi du monde dans les idoles, mais j'allais dire toutes les formes de foi religieuses, celles qui sont désincarnées, c'est-à-dire qui ne conçoivent pas une relation directe avec Dieu, eh bien toutes les formes de foi ne peuvent pas apporter le bonheur aux hommes. Les traditions religieuses ne permettent pas de devenir meilleurs. Dans l'hindouisme, ça ne rentre pas en ligne de compte. Si on veut devenir meilleur, eh bien, on verra plus tard. C'est la réincarnation, n'est-ce pas, la loterie de la réincarnation qui va déterminer si plus tard on sera meilleur ou pire. Mais quand même, le besoin de faire des rituels, le besoin de ne pas frustrer les divinations, le besoin de faire les choses qu'il faut, au moment où il faut, c'est ça qui est très important dans le rite religieux. Dans l'islam, la notion de péché n'existe pas. Le seul péché, c'est d'offenser Allah. C'est de ne pas faire ce que Allah demande, ne pas faire les prières, toutes ces choses-là. Ne pas être sérieux avec Allah. Mais on ne naît pas dans le péché. Nous savons que nous sommes nés pécheurs, n'est-ce pas ? Pour un musulman, il n'est pas né pécheur. Il devient pécheur lorsqu'il offense Allah. Ça, c'est son péché. Et donc, voilà, et il n'y a pas de certitude du salut. Et donc, il y a ça d'un côté, n'est-ce pas ? On veut adorer les dieux parce que ça nous rassure, mais de l'autre côté, il y a un grand flou, une grande incertitude sur notre avenir. Qu'est-ce qui va se passer après la mort ? Aucune religion ne donne la solution à ça. Et donc, il n'y a pas de sécurité. Dieu avait donné à Israël une loi. Une loi qui devait leur permettre de bien vivre entre eux dans le pays, mais aussi de bien vivre avec Dieu. Et c'était la loi de Moïse. Il y avait des règles à suivre, mais il y avait surtout des principes qui établissent, qui étaient derrière cette loi, qui étaient des principes divins, n'est-ce pas, et qui étaient des valeurs morales, qu'il fallait qu'ils recherchent et qu'ils pratiquent, les valeurs morales qui venaient de Dieu. La justice, par exemple, la miséricorde, par exemple, la fidélité. Tout ça, c'était des valeurs morales qui sous-tendaient la loi, les règles qu'il fallait respecter. Jésus s'adresse à des pharisiens. Et donc, les pharisiens étaient des gens qui connaissaient bien la loi. Ils étaient des gens qui pratiquaient la loi. C'était des gens qui enseignaient la loi. Mais Jésus a un problème avec ces pharisiens. Ou alors les pharisiens ont un problème avec Jésus. Et si on va un peu plus loin dans Matthieu, on va le lire au chapitre 23, c'est Jésus qui parle aux pharisiens de façon très très claire. 23, à partir du verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. » N'est-ce pas ? Il dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites parce que vous respectez la règle, mais vous ne respectez pas les valeurs morales qui sont en dessous de cette règle, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Je ne vais pas commenter ça, mais bon. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, encore une fois. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Pour Jésus, ce qui distinguait le pharisien, c'était l'hypocrisie. Il paraissait bien extérieurement, il paraissait propre, il paraissait nickel, mais intérieurement, ils étaient impurs, hypocrites, méchants. Ils pratiquaient la loi, ils la connaissaient bien, mais à l'intérieur, ce n'était pas comme à l'extérieur. Et Jésus avait remarqué cela. Et Jésus donc leur disait ce qu'il avait remarqué. Ce n'était pas pour les ennuyer. C'était pour les avertir et pour qu'ils puissent être sauvés. C'était son rôle, n'est-ce pas ? Le Fils de Dieu n'est pas venu pour ennuyer le monde. Il est venu pour sauver le monde. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Je reviens dans Matthieu 12. À partir du verset 33. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon ? Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et Jésus va leur répondre quelque chose. Il va leur dire, vous n'aurez pas de miracle. Vous aurez juste un seul signe, c'est le signe de Jonas. Je vais y venir après. Un chrétien peut, n'est-ce pas, lui aussi, comme les pharisiens, avoir une doctrine très pure. Il peut dire des vérités. Il peut apparaître comme quelqu'un de très pieux. Mais à l'intérieur, ne pas posséder les qualités qui font les enfants de Dieu véritables. Il est plein de jugement. Il convoite, il se met en colère contre son frère. Il est fourbe, médisant, égoïste. Et nous l'avons lu, n'est-ce pas, Jésus nomme des croyants qui se comportent comme des pharisiens. Il les nomme « génération méchante ». Si vous lisez dans le verset 12-34, « race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ?» Verset 39, « une génération méchante et adultère demande un miracle ». Et verset 46, « il en sera de même pour cette génération méchante ». La génération méchante. C'est comme ça que Jésus nomme ceux qui se comportent comme les pharisiens. Pourtant, les pharisiens avaient une tendance à la repentance. Ils croyaient à la repentance. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, ils sont allés, et ils étaient plusieurs à aller à la repentance. Le problème, bien-aimé, c'est qu'on est pas pardonner en confessant ses péchés. La confession, c'est pas le pardon. On est pardonné parce qu'on s'est définitivement détourné du péché. Et ça, ça s'appelle la conversion. Mais les pharisiens ne voulaient pas de la conversion. Ils voulaient profiter des bienfaits de Dieu. Ils voulaient se servir de Dieu. Comme les païens se servent des idoles pour se rassurer. Comme un calmant, comme un médicament que l'on prend quand ça va mal. Mais ils ne voulaient pas venir à lui, n'est-ce pas, Jésus l'a dit. Vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi pour être guéri, pour vraiment se repentir. Contrairement à ce qu'ont fait les terroristes sanguinaires, de Ninive. Contrairement à la reine de Saba qui est venue écouter la sagesse de Salomon. Et donc, Jésus vient de faire de nombreux miracles. Et le dernier miracle, c'était la délivrance d'un homme possédé d'un démon. Mais les pharisiens veulent plus de preuves, plus de miracles. Alors Jésus leur dit la chose suivante. Il ne vous sera donné aucun autre signe que celui de Jonas. Et Jésus explique, n'est-ce pas, en disant ça, il dit, il fait un parallèle entre le temps passé par Jonas dans le ventre du grand poisson et le temps que Jésus devra passer dans le sein de la terre. On sait que Jonas est d'une certaine manière ce qu'on appelle un type de Christ. C'est-à-dire qu'il a prêché, n'est-ce pas, la repentance. Et en ça, il ressemble à Christ. Mais il y a un autre parallèle que Jésus veut faire lorsqu'il dit ça aux pharisiens. Il veut leur faire comprendre, et à tous les hommes religieux, de façon générale, que Jonas représente les croyants qui extérieurement paraissent justes, mais qui intérieurement sont corrompus. Alors on va lire Jonas, Je suis sûr que vous connaissez très très bien l'histoire. Lève-toi, Jonas 1, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi. Peut-être qu'il était en train de dormir. Alors, c'est une façon de dire, allez, va. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Incroyable. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, il s'est dit, « Ouais, j'ai un appel pour la mission. J'ai un appel. Dieu m'a appelé. » Et je suis allé au port, et là j'ai vu un bateau prêt à partir, et je me suis dit, ah oui, Dieu m'ouvre la porte pour partir à Tarsis, n'est-ce pas? Et donc je suis rentré dans le bateau, et le bateau est parti, tout roule. Jonas, Dieu lui avait dit, lève-toi, va à Ninive, pas à Tarsis. Et parfois on entend les choses qu'on a envie d'entendre, pas les choses que Dieu dit. Et ça, c'est le propre, n'est-ce pas, de l'homme religieux. C'est que il entend une chose, et alors il y a une traduction immédiate. Et il se convainc d'une autre chose. Dieu s'adresse à son prophète pour qu'il fasse un travail assez simple, finalement, n'est-ce pas? Il y a des boulots plus durs dans la vie. Là, il s'agissait de se lever et d'aller juste dire aux gens, la colère de Dieu est sur vous. C'est ça qu'il fallait faire. Alors, Jonas décide donc de partir dans la direction opposée pour Tarsis. Le cœur de Jonas n'est pas disposé à obéir à Dieu. Jonas est rempli de lui-même, rempli de ses propres idées sur la volonté de Dieu, de sorte qu'il est complètement imperméable à la demande que Dieu lui fait et qui est tellement simple. Mais la raison d'être d'Israël, n'est-ce pas, c'était que, en tant que nation, ils soient les représentants de la gloire de Dieu face aux nations païennes. Mais avec le temps, Israël avait perdu de vue cet extraordinaire appel. Les peuples et les chefs religieux avaient perdu l'amour pour Dieu. La seule chose qui motivait les pharisiens, c'était la préservation de leur culture religieuse, de leurs rites, de leurs coutumes, de leurs traditions, de leurs habitudes. Mais leur cœur était sec, comme le cœur de Jonas. Leur cœur était sec. Il n'y avait plus de place pour aimer Dieu. De sorte que, quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu Dieu au travers de lui. Ils n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui leur parlait. Et au contraire, ils l'ont assimilé à un traître, à un faux frère, voire à un serviteur de Satan. Ça, c'est ce qui se passe lorsque l'Église commence à devenir une institution. La culture. N'est-ce pas? La culture, c'est ce qui reste lorsque la foi disparaît. Il faut figer dans le marbre ce qui reste pour ne pas oublier d'où on vient. Jonas part dans la direction opposée. Jonas n'entend pas Dieu lui parlait, si, il l'entend, mais il ignore ce que Dieu veut lui dire. Alors, au chapitre 2, il se passe la chose suivante. Jonas est jeté par-dessus bord, je ne vous raconte pas l'histoire, mais n'est-ce pas, il y a toute cette tempête qui se met en route, il y a cette terreur qui prend les marins, chacun se met à prier son Dieu. Et ils s'aperçoivent que c'est Jonas, celui qui dort en bas, qui est responsable de la situation. Et Jonas leur dit, ben oui, écoutez, c'est moi. Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et vos affaires vont s'arranger. Ils ne voulaient pas le faire initialement, mais la tempête continuait à faire rage. Ils avaient déjà tout balancé par-dessus bord. il n'en restait plus qu'un, c'était Jonas. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Et effectivement, la tempête s'est calmée. Au passage, et vous le lirez si vous voulez, j'aimerais dire que les païens sont ceux qui ont prié Dieu. C'est eux qui ont prié Dieu dans ce bateau à la fin et qui ont reconnu que Dieu était celui qui était à l'origine de la tempête. Ce sont les païens. Et donc Jonas est dans l'eau. Et Jonas est en train de couler. Et là, le poisson vient et il l'avale. Et donc Jonas passe par un moment de terreur intense. Un temps durant lequel il s'aperçoit que si Dieu n'intervient pas, il est perdu. Et la rédemption de Jonas passe par la repentance dans le ventre du poisson. Dans ma détresse, verset 3, « J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. » Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Quand mon âme était abattue au-devant de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Quand ça ne va pas, on se souvient de Dieu, n'est-ce pas ? Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel et le poisson l'a rejeté sur la rive. Il l'a ramené à la maison. La repentance de Jonas a eu un effet. Deux, on va dire. Le premier, c'est qu'il a été rejeté sur la rive. Mais le deuxième, c'est qu'il a pu repartir sur une bonne base vis-à-vis de Dieu. Et on le lit, n'est-ce pas, chapitre 3. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. » « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Ce sont les mêmes mots, la même demande, et la réponse, Jonas se leva et alla à Ninive. Donc ça, c'est le premier effet. C'est le deuxième effet. Il alla à Ninive. Et il alla à Ninive, pourquoi ? Pour annoncer à ces Ninivites qui étaient des terroristes, qui étaient des combattants sanguinaires absolument extraordinaires. C'était des maîtres dans l'art de la torture. C'est eux qui décapitaient les têtes. Ça, c'était les gens à qui Dieu voulait s'adresser. De la part... À qui Jonas devait s'adresser de la part de Dieu. Il est allé là-bas. Il a annoncé que Dieu allait les détruire. Et ils se sont repentis. Et Dieu ne les a pas détruits. Dieu, il est dit, se repentit lui-même du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Et c'est à ça qu'a servi la repentance de Jonas. La repentance de Jonas a servi à sauver un peuple qui ne méritait pas d'être sauvé. Comme vous, comme moi. Un peuple comme vous et moi qui ne méritait pas d'être sauvé. Donc cette repentance de Jonas est salutaire pour Ninive. Mais pour Jonas, elle n'est pas suffisante. Parce que Dieu va devoir éduquer Jonas. Et c'est pour ça que Jésus pointe Jonas aux pharisiens. Il va montrer à Jonas le fond de son cœur, la dureté de son cœur vis-à-vis des âmes qui se perdent. Dieu se sert de Jonas comme il se sert des pharisiens. Jésus n'a jamais dit que les pharisiens ne servaient à rien. Jésus a dit, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. C'est juste une autre façon de dire, extérieurement c'est bon, faites ce qu'ils disent. Mais faites pas ce qu'ils font, faites pas comment ils sont à l'intérieur. Et c'était comme ça qu'était Jonas. Extérieurement, il avait fait le boulot. Mais à l'intérieur, il était toujours le même. La repentance dans le ventre du poisson n'avait pas suffi. Chapitre 3. Je l'ai déjà lu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Et Jonas a fait le boulot sans que son cœur soit impliqué. Si on retourne dans Matthieu 12, verset 43, Jésus dit quelque chose de très particulier à la fin de son discours. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. N'est-ce pas? L'esprit impur va par des lieux arides cherchant du repos. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Alors il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération, et on l'a vu tout à l'heure, il parlait d'une génération méchante. Jésus fait comprendre aux pharisiens que s'ils ont été bénis par la prédication de Jean-Baptiste, on le sait, les pharisiens avaient aimé Jean-Baptiste, ils l'appréciaient, ils le reconnaissaient. Et s'ils ont pris de bonnes résolutions en écoutant la parole de Jean-Baptiste, qu'ils avaient accepté, n'est-ce pas, comme un envoyé de Dieu, eh bien, ils ne peuvent pas en rester là. On ne peut pas rester le cœur lavé, mais vide. Parce qu'il y a un danger. C'est que très rapidement, le cœur se remplisse à nouveau. Et s'il ne se remplit pas de l'Esprit de Dieu, il va se remplir de l'esprit du malin. Et en refusant les avertissements et l'appel de Jésus-Christ, les pharisiens sont en danger de s'endurcir au point de devenir définitivement insensibles à la voix de Dieu, aveugles à la vision de Dieu, incapables de comprendre le message de Dieu. C'est ce que Paul déjà a déploré plus tard dans Actes 28, lorsqu'il dit « Le cœur de ce peuple est devenu insensible ». Il y avait une discussion, n'est-ce pas, entre les croyants. Dans l'Église de Christ aussi, il y a des pharisiens.
Comment ça?
Oui, l'apôtre Pierre en parle. 2 Pierre 2, 20-22. L'apôtre Pierre évoque le problème des faux docteurs dans l'Église. Des hommes qui ont été bénis par Dieu, qui se sont égarés. Des hommes qui prêchent la délivrance alors qu'ils sont eux-mêmes dans l'esclavage. Des hommes qui s'étaient retirés des souillures du monde, je cite, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est marqué. Et qui s'y engagent à nouveau et sont vaincus. Leur condition est pire que la première. Et donc, Dieu demande à Jonas d'appeler des hommes à la repentance, alors que lui-même n'est pas au clair avec Dieu. C'est ça le pharisien. Et c'est ça qui doit alerter tous les religieux et tous les pharisiens. être à la bonne place, avec les bonnes paroles, mais ne pas avoir la bonne attitude de cœur. Et les Ninivites, eux, vont pouvoir répondre à Dieu et se repentir. Mais Jonas a le cœur vide après sa repentance dans le ventre du poisson. Et s'il ne se passe pas quelque chose très rapidement, eh bien, sa vie va devenir beaucoup plus difficile. Et on le voit. Jonas va plonger. Pas dans la mer cette fois-ci. Mais il va plonger dans une dépression profonde. Et Dieu va mettre en évidence le côté caractériel de Jonas, sa colère, son amertume. Et ça, on le voit dans le chapitre 4. N'est-ce pas ? Dieu vient de se repentir du mal qu'il voulait faire aux Ninivites. Et cela déplut fort à Jonas. Vous vous rendez compte ? Tu es qui, Jonas ? Tu es qui pour dire à Dieu ce qui est bien ou pas bien ? Jonas est un homme, un prophète, qui a une certaine idée de la justice, une certaine idée de ce que Dieu devrait être et faire. Il avait sans doute une doctrine de Dieu bien établie. Et dans son esprit, Dieu ne pouvait pas, mais alors pas du tout, montrer de l'amour et de la bonté à des hommes méchants, sanguinaires, comme étaient les Ninivites. Il ne pouvait pas le concevoir. C'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller. C'est pour ça qu'il a refusé d'aller à Ninive. Parce qu'il connaissait Dieu. Et il savait que Dieu était comme ça. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Je le savais. Je le savais, c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Jonas est un prophète qui refuse de manifester la grâce aux pécheurs. La grâce de Dieu. Il a refusé de transmettre la grâce de Dieu aux pécheurs. C'est ça qu'il a fait. C'est comme ça qu'étaient les pharisiens. Ils mettaient des fardeaux sur les épaules des personnes. Et ils ne bougeaient pas le petit doigt pour les aider. Il n'y avait pas de grâce. Il refuse de transmettre la grâce de Dieu aux pécheurs, alors que Dieu venait de lui faire grâce dans le ventre du poisson. Dieu a fait grâce à ce prophète stupide, entêté, et lui refuse. Jonas était d'accord de prendre ce que Dieu lui donnait, mais il n'était pas prêt d'accorder aux autres ce que lui-même avait reçu de Dieu. Et c'est donc la méconnaissance profonde de Dieu et qui est la cause du déséquilibre psychologique de David, de Jonas. Il connaissait sans doute très bien, n'est-ce pas, les vérités au sujet de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. En tout cas, il n'acceptait pas le Dieu qu'il savait qu'il était. Et quand Dieu lui-même annonce qu'il ne va pas anéantir les Ninivites, eh bien, ça rend Jonas fou de colère. Fou de colère. C'est ce qui s'est passé avec les pharisiens. Lorsque Dieu est venu en Jésus pour leur parler de la grâce, du pardon des péchés, de la guérison des cœurs, de la délivrance des démons, les pharisiens étaient fous de colère parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Leur doctrine était bien en place, mais leur cœur était corrompu. Mais personne bien-aimé ne peut exprimer la gloire de Dieu en étant, comment il dit Élie, en clochant des deux pieds, n'est-ce pas, en étant, déséquilibré sur ses pieds. Si notre doctrine est juste, il faut que notre vie soit conforme à notre foi. Sinon, notre marche est déséquilibrée et Dieu n'est pas glorifié. Pour ne pas être un chrétien boiteux, il faut que nos jambes aient la même longueur. Dans Jean 1, 14, il est dit, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique venu du Père. La grâce et la vérité sont les deux jambes du chrétien. Jonas était un prophète boiteux, parce qu'il ne marchait que sur la jambe de sa propre vérité. Et dès qu'il fallait s'appuyer sur la jambe de la grâce, il s'écroulait dans un gouffre de colère et d'amertume. Les pharisiens avaient une grande connaissance de la loi et des prophètes et des vérités de la Bible, mais dans leur cœur, il n'y avait pas de place pour la miséricorde. Peut-être que certains pensent que la grâce est venue juste avec la nouvelle alliance, mais ce n'est pas vrai. Isaïe avait déjà dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. C'est ça le cœur de Dieu, depuis tout le temps. Bien-aimé, pour manifester la gloire de Dieu, il faut que nos jambes soient de la même longueur. Il faut que ce qui est visible de l'extérieur soit en conformité avec ce qui se passe à l'intérieur, dans le secret de notre cœur. Dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, c'était quelque chose de souvent d'extraordinaire, n'est-ce pas? C'était quelque chose de miraculeux, c'était le rayonnement de Moïse lorsqu'il descend de la montagne, lorsqu'il a reçu la loi, n'est-ce pas? Il rayonnait de la gloire de Dieu. Donc c'était quelque chose de fantastique. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, la gloire de Dieu se manifeste au travers de la lumière qui rayonne dans chacun des caractères, des personnalités des enfants de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que nous puissions rayonner, n'est-ce pas? Rayonner de la lumière de Dieu. Parce que nous sommes les héritiers. Nous ne sommes pas les petits-enfants de l'ancienne alliance. Nous sommes les héritiers. Ceux qui ont reçu l'héritage. Ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Et si nous appartenons à la famille de Dieu, nous avons reçu la lumière de Dieu. Et nous pouvons rayonner comme il rayonne lui-même. Et ainsi montrer la gloire de Dieu. C'est la fin. J'aimerais qu'on passe juste un peu de temps pour prier. Pour que Dieu nous aide à véritablement manifester sa gloire. Qu'il nous aide à trouver le bon équilibre entre les vérités que nous disons de lui et la grâce que nous devons manifester, que nous pouvons manifester autour de nous. Cette grâce qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Prions.
Seigneur, je veux encore ce matin te demander d'intervenir pour que nous puissions arriver à trouver cet équilibre entre la vérité et la grâce, Seigneur. Que nous puissions vivre et manifester cette grâce que toi, tu nous donnes, parce que tu es un Dieu compatissant, un Dieu d'amour et un Dieu qui veut pardonner. Tu veux nous éclairer par ton esprit pour que ce soit toi qui puisse remplir nos cœurs et que nos cœurs ne soient pas seulement nettoyés, mais aussi remplis de toi et de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, merci de nous parler ce matin. Seigneur, pour moi-même, je ne veux pas juste être celui qui fait le boulot et après c'est fini. Seigneur, que tu puisses encore plus et toujours plus remplir mon cœur. Seigneur, de ton amour, de ta grâce. Seigneur, que je puisse marcher de façon équilibrée, Seigneur, dans chaque jour. Seigneur, que cette marche puisse être faite, Seigneur, devant ta face. Seigneur, et que jour après jour, je puisse revenir devant toi, Seigneur, pour me remettre en question et pour continuer, Seigneur, à plaider afin que la lumière de Christ, la lumière de Dieu, puisse resplendir, Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses véritablement, lorsque tu es présent, Seigneur, sur le trône de la grâce, que les hommes et les femmes qui nous rencontrent, Seigneur, puissent savoir qu'ils ont en face d'eux la lumière de Dieu, le rayonnement qui vient du trône, le pardon possible des péchés, une nouvelle vie. Seigneur, que tu puisses faire de nous des objets de ta gloire, ceux qui manifestent clairement que tu es Dieu, que tu agis beaucoup plus, que tu agis de largement plus que les idoles, qui ne sont que des faux dieux, qui sont des suppôts de Satan. Seigneur, nous voulons regarder à toi, non pas comme une idole, mais comme le Dieu qui est vivant, qui anime nos cœurs, qui anime notre esprit, qui anime nos idées, qui anime nos membres. Seigneur, et nous voulons être en mesure de t'entendre. Et lorsque nous t'entendons, nous voulons être capables de t'obéir et ne pas faire l'inverse de ce que tu nous dis. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit honoré dans chacune des vies et dans chacune des familles qui sont représentées ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.